Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue avec l'Esprit Saint dans l'Église, ça te va ?
Eh bien oui, c'est lui qui nous porte. Hein.
Oui, il ne faut pas l'oublier. je reprends une dernière fois le numéro 737 qui est très riche. Il est question d'un Esprit Saint qui semble très actif dans l'Église. Je lis tous les verbes qui lui sont associés. L'Esprit prépare les hommes, il prévient par sa grâce, il les attire vers le Christ, il leur manifeste le Seigneur, il leur rappelle sa parole, il ouvre leur esprit, il leur rend présent le mystère du Christ. Ça semble être un...
Et il met en communion même.
Ouais. Il met en communion. Il nous fait porter beaucoup de fruits, donc c'est extrêmement
très riche.
Il semble être très actif dans les membres de l'Église. Mais en même temps, quand on nous regarde, quand on se regarde, ou quand on regarde ce que les médias nous présentent de l'Église, on n'a pas l'impression que l'Esprit-Saint soit si présent. Est-ce que c'est le numéro 737 qui se trompe, ou est-ce que c'est notre regard sur l'Église qui se trompe ?
Alors c'est vrai qu'il faut toujours faire des regards anagogiques, c'est-à-dire d'élévation au-dessus des regards purement humains, qui peuvent être sociologiques, qui peuvent être tout à fait horizontaux. Et un jour, je me souviens, une religieuse me disait « Nous sommes souvent comme des gens qui avançons en voiture, et puis à un moment, bon, on est à l'arrêt, de coup, pof, il y a un guano d'oiseaux qui tombe sur le pare-brise, et nous disons, je coupe le moteur, c'est fini, je ne veux plus continuer parce qu'il y a le guano qui est tombé sur le pare-brise. » Et nous sommes un peu trop comme ça, c'est-à-dire nous ne comprenons pas que c'est une petite tâche, c'est vrai, il faut aller l'enlever, passer peut-être la pompe à eau de la voiture, faire passer les essuie-glaces, attendre que ce soit bien lavé pour redémarrer. Mais disons que ça n'est pas fondamental sur la mécanique générale, sur l'ensemble de la réussite de la voiture, sur l'avancée, sur le trajet, sur tout ce qui est nécessaire, et que le moteur peut toujours tourner. Donc on a un peu un regard un petit peu trop basique, je dirais, sur les péchés de certains membres de l'Église qui font éclat, qui font surface en quelque sorte, mais on oublie l'essentiel qui est le travail très lent, souvent de la grâce, qui est un travail minutieux, modeste, malaisé, et qui est le travail de la sainteté. Or, le travail de la sainteté n'est jamais avec des grands coups éclatants, sauf miracles qui peuvent arriver. D'ailleurs, on a quand même pas mal de miracles dans l'histoire de l'Église. Notre Seigneur Jésus ne s'en est pas privé. Pendant 3 ans de sa vie, il a donné beaucoup de miracles, mais il a passé 30 ans aussi sans miracle. Donc, il ne faut pas majorer les coups d'éclat, ni non plus les minimiser totalement. Alors, il y a des éclats. À chaque fois que l'Église béatifie un saint, il y a un miracle. À chaque fois qu'elle canonise un saint, il y a un deuxième miracle, et c'est authentifié. Alors là, curieusement, autant les médias mettent le focus sur les affaires de mœurs, sur les péchés des uns et des autres, mais quand il y a un miracle, je cherche toujours dans les lignes des grands journaux, il n'y a jamais une ligne, alors qu'un tribunal a fait un travail d'expert, a regardé pendant longtemps, que ce soit Lourdes ou dans la vie des saints, et déclare qu'il y a des miracles. Donc ça veut dire que Dieu est vraiment à l'œuvre, l'Esprit Saint est vraiment à l'œuvre. Mais c'est vrai que Dieu, depuis Isaïe 45, il nous a été révélé que Dieu est un Dieu caché. Et saint Paul en écho dit « Votre vie est cachée dans le Christ », Colossiens chapitre 3. Et je crois que ce sont les mœurs divines qui nous sont inconnues. C'est-à-dire Dieu avance avec un autre regard parce qu'il respecte tellement notre liberté. Il nous a créés à son image et ressemblance et donc libres. Et il respecte tellement notre liberté que nous devons reconnaître cette avancée, je dirais, lente et progressive vers la sainteté, croire que finalement, l'Esprit-Saint a le dernier mot, la vérité a le dernier mot, la sainteté a le dernier mot. C'est ça qui est notre espérance dans l'Église, et c'est pour cela que je peux dire avec grande fermeté, je crois en l'Esprit-Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints.
Oui, donc l'Esprit Saint est vraiment à l'œuvre. C'est à nous d'essayer de purifier aussi un peu notre regard pour mieux le voir, mieux le saisir. Ça me fait penser, dans Laudato aussi, le pape François rappelait que à cause du péché, on voyait plus très bien Dieu dans la nature, mais qu'en purifiant ce péché, on pourrait mieux voir la Sainte Trinité présente dans tout ce qui nous entoure. Là, ce serait un peu la même chose. Il faudrait mieux regarder l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies.
Oui, il faut nettoyer notre pare-brise, le pare-brise de la vie, comme dans l'image que je prenais tout à l'heure de la voiture qui se bloque parce qu'il y a un guano dessus. Il faut nettoyer aussi nos rétroviseurs, parce qu'il faut regarder notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis des siècles, hein? C'est la seule institution qui tiennent depuis des siècles, alors que les empires se sont écroulés, les républiques se sont multipliées, les empires changent, etc. Les présidents changent, les destins des peuples changent, mais l'Église demeure. Et il faut regarder aussi dans le rétroviseur pour voir cette extraordinaire capacité de l'Église à continuer l'œuvre de l'Esprit-Saint, comme il est dit, de mettre en communion avec Dieu. Parce que dans le fond, c'est ça la finalité. C'est pas tellement, je dirais, de faire de la pub, mais de mettre en communion. On comprend que c'est un décalage de vocabulaire total avec ce qui apparaît la gloire des hommes. La gloire des hommes, c'est souvent d'être la vedette. Et Jésus, d'ailleurs, reproche à certains de dire qu'ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et c'est là qu'est l'enjeu, je crois, c'est cette perte de sens de la gloire de Dieu. Et du coup, nous nous éloignons du travail de préparation, de manifestation, de rendre présent, de mettre en communion que l'Esprit fait dans les profondeurs du cœur de l'homme, à condition que nous ayons que les écailles nous tombent des yeux. Saint Paul, fêté le 25 janvier de chaque année autour de sa conversion, ben, on dit que des écailles lui sont tombées des yeux. Il faudrait que nos journalistes, nos hommes d'État aient des écailles qui leur tombent des yeux pour se rendre compte vraiment de la vérité de ce qui se passe dans l'Église, et sans doute ils auraient beaucoup plus de respect pour ce travail de l'Esprit Saint dans les profondeurs des cœurs.
Au numéro suivant, 738, il y a un mot qui apparaît qui semble important. Ce numéro présente l'Église comme le sacrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enjeu de ce mot pour présenter l'Église comme un sacrement?
Alors, nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est un signe visible d'une réalité invisible. Et nous comprenons bien que l'Église a une part visible, puisque nous avons une institution, nous avons une hiérarchie, nous avons un discours extérieur, nous avons une prédication, nous avons de nombreuses œuvres de charité, d'enseignement qui montrent bien que nous sommes audibles, visibles, tangibles d'une manière très nette. Et pourtant, tout ce qui est audible, sensible, visible, tangible de l'Église rapporte quelque chose qui nous dépasse complètement et qui désigne le ciel. C'est-à-dire, nous avons les doigts pointés vers notre demeure définitive qui est le ciel, où nous attend les anges, où la myriade d'anges nous attend. Il y a un très beau passage dans l'Épître aux Hébreux, c'est au chapitre 12-13 de l'Épître aux Hébreux qui redit ça, où l'apôtre dit « Vous vous êtes dirigé », hein, c'est au chapitre 12 exactement verset 13, « Vous êtes vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de myriades d'anges, réunions de fêtes et de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge universel et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus médiateur d'une alliance nouvelle et d'un sang purificateur plus éloquent que celui d'Abel. » Extraordinaire passage donc de l'Épître aux Hébreux qui montre bien notre orientation. Et qu'est-ce que signifie donc cette Église qui est sacrement, sacrement universel du genre humain, sacrement universel du salut, dit exactement le Concile Lumen Gentium au numéro 45.
Cette église semble être le, entre autres, hein, le sacrement de l'unité de la Sainte Trinité, dans le sens où elle c'est une citation, ça vient d'une citation de Saint Cyril d'Alexandrie qui est au numéro 738, qui semble présenter donc l'église comme par la communion de ses membres un signe de l'unité qu'il y a dans la Sainte Trinité. Tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, le Concile Vatican II, donc au numéro 4 de Lumen Gentium, dit explicitement que l'unité de l'Église, c'est l'unité même du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reprenant un texte de Saint Cyprien sur De Unitate Ecclesiae, sur l'unité de l'Église. Eh bien, on peut dire que ce texte de Saint Cyril d'Alexandrie est en totale conciliation avec un texte plus ancien de Saint Cyprien, qui est si beau. On peut le citer, d'ailleurs, je pense qu'il va faire l'admiration de nos auditeurs. Nous tous qui avons reçu l'unique et même esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous sommes fondus entre nous et avec Dieu, car bien que nous soyons nombreux séparément et que le Christ fasse que l'Esprit du Père et le sien habitent en chacun de nous, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même. Et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tout cela en qui elle se trouve forme un seul corps, je pense, dit Saint Cyril, que de la même manière, l'Esprit de Dieu qui habite en tous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle.
Donc à nous, chrétiens, d'essayer de vivre cela à chaque fois qu'on se retrouve à la messe, à chaque fois qu'on se retrouve ensemble.
Et à chaque fois qu'on communie.
Et qu'on communie.
La communion eucharistique doit se vivre dans cette atmosphère.
Merci, frère Edouard.
Merci beaucoup.